Radio Kapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici les titres. Amnesty International dénonce dans un rapport publié ce 5 mai des exactions massives commises par les combattants des ADF contre des civils au Nord Kivu et en Ituri. Des violences qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans ce que l'ONG décrit comme une crise largement ignorée par le monde. Au Kasaï Oriental, une semaine après la coupure du courant de la SNEL, provoquée par l'effondrement de deux poteaux de la ligne haute tension, les répercussions se font sentir à Mbujimayi. Vendeurs de vivres frais et propriétaires de bureautiques crient au manque à gagner qu'entraîne cette coupure. L'invité de ce journal est le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete. Dans un entretien avec Élise Kavira, il s'exprime sur la problématique des embouteillages qui paralysent cette cité portuaire. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal Parler de la mi-journée sur la radio de la paix. C'est une alerte forte lancée par Amnesty International. Dans un rapport publié ce 5 mai, l'organisation dénonce des exactions massives commises par les combattants des forces démocratiques alliées, les ADF, un groupe armé affilié à l'État islamique, contre des civils au Nord Kivu et en Ituri. Meurtres, enlèvements, tortures, mariages et grossesses forcées, des violences qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans ce que l'ONG décrit comme une crise largement ignorée par le monde. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
Dans ses rapports, Amnesty International décrit une violence extrême infligée aux civils par les ADF. L'organisation évoque des personnes tuées, enlevées ou torturées dans une campagne de violence soutenue. Selon elle, les attaques visent les populations, mais aussi les champs, centres de santé et habitations, souvent pillés puis incendiés. Ces violences aggravent les déplacements des populations et perturbent l'accès à des services essentiels comme l'alimentation, la santé et l'éducation. Les rapports font aussi état d'enlèvements massifs, de travail forcé et de recrutement d'enfants. Des femmes et des filles subissent mariages forcés, grossesses imposées et violences sexuelles répétées. Amnesty International insiste, ces exactions constituent des crimes de guerre et contre l'humanité que le monde ne peut plus ignorer. Elle alerte aussi sur une crise oubliée. Pendant que la tension se focalise sur l'AFC M23, les ADF intensifieraient leurs attaques dans l'est du pays, précise Amnesty International. L'organisation appelle en fait les autorités congolaises et la communauté internationale à agir en urgence pour protéger les civils et traduire les responsables en justice. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Kapi.
Dans un autre registre, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, condamne avec fermeté les actes de vandalisme ayant visé son siège situé sur le boulevard Sendwe dans la commune de Kalamu à Kinshasa ce lundi. Le bâtiment a été incendié en marge d'une marche organisée par l'UDPS, formation au pouvoir, avec la participation de plusieurs partis membres de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Cette mobilisation visait notamment à soutenir les récentes sanctions américaines prises contre l'ancien président Joseph Kabila, accusé de soutenir les rebelles de l'AFC M23. Sa réaction sur la radio Kapi, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, dénonce ce qu'il qualifie des dérives du pouvoir et interpelle la communauté internationale, en particulier les États-Unis, qu'il qualifie de fermer les yeux sur les violences visant l'opposition. Ferdinand Kambere, joint par Grace Hamzati.
On ne peut pas accepter que les États-Unis soient derrière des partis violents en démocratie, comme c'est le cas. Encore que les États-Unis et même toutes les autres ambassades, ils sont témoins de ce qui se passe dans notre pays. Les ambassades avaient été victimes aussi des violences, des manifestations de ces mêmes partis politiques au pouvoir. Parce qu'il y a un régime Félix qui est au pouvoir, parce qu'il y a eu des accords signés jusqu'à aujourd'hui, les Congolais ne savent pas avoir la clarté, les contenus de ces accords, sinon minéraux qu'on appelle accords sous la paix. Ces régimes-là est protégé, ces régimes-là la paix s'attaquer aux autres partis politiques de l'opposition sous la bénédiction des États-Unis, en tout cas comme parti politique. Ce qu'on a vu hier est couvert sous le soutien de quelconques sanctions qui ne sont du reste que des sanctions administratives. Le PPRD, avec la dernière énergie, nous condamnons les actes de vandalisme qui se sont passés hier à notre siège de Sendoué. Les images en parlent.
Je le disais en titre, au Kasaï oriental, une semaine après la coupure du courant de la Société nationale d'électricité SNEL, provoquée par l'effondrement de deux poteaux de la ligne haute tension, les répercussions se font sentir en Boujimaï. Vendeurs de vivres frais et propriétaires de bureautiques tirent la sonnette d'alarme face au manque à gagner qu'entraîne cette coupure. Esther Dalafina.
En Boujimaï, les commerçants de vivres frais sont parmi les premiers à ressentir les effets de la coupure prolongée de l'électricité. Sans réfrigération, une partie de leurs marchandises se détériore, entraînant des pertes financières importantes et une baisse notable de leurs revenus.
D'abord, nos vivres frais s'abîment parce que nous n'avons pas de courant.
Tellement nous, on va des vivres frais, on est vraiment coincé. Il faut que le gouvernement intervienne un peu pour nous décanter un peu à ça.
Dans le quartier Tchatchatcha, Simon Sekela, propriétaire d'une bureautique très fréquentée, déplore lui aussi un manque à gagner considérable. Il affirme que plusieurs jours d'inactivité forcée ont paralysé ses services habituellement très sollicités par les étudiants et les opérateurs économiques.
Nous travaillons avec des ordinateurs qui nécessitent beaucoup d'énergie. Comme il n'y a pas de courant, les clients viennent et rentrent.
Pour rappel, c'est le mercredi dernier que deux poteaux de la ligne haute tension transportant l'énergie de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi se sont effondrés dans un ravin. L'incident a plongé une partie de la ville de Boujimaï dans le noir, ainsi que les villages de Miabi et Boya. Esther Ndalafina, Boujimaï, Radio Okapi.
À Bounia, des stations-services ont été envahies ce matin par les automobilistes pour s'approvisionner en carburant. En cause, la réduction du prix du litre de carburant à la pompe qui passe de près de 6 000 francs congolais à 4 200, cela conformément à l'arrêté du ministère de l'économie du 4 mai fixant la nouvelle structure des prix des carburants dans la partie est de la RDC. Marcel Kisabiamongo a fait la ronde de quelques-unes de ces stations-service. Voici son reportage.
C'est une ambiance particulière qu'on a observée ce mercredi matin dans la plupart des stations-service au centre-ville de Bounia. Des particuliers de motos et taxis de transport en commun affilent l'indienne pour s'approvisionner en carburant. Un litre d'essence qui coûtait 5 000 francs à 6 000 francs congolais se vend désormais à 4 200 francs congolais. Une réduction saluée par les consommateurs qui souhaitent que cela impacte aussi le prix de la course à taxi.
Nous sommes contents de cette réduction du prix du carburant et nous pensons que ça pourra revenir comme dans le passé à 3 000 francs congolais. Comme il y a cette réduction du prix de l'essence à la pompe, nous souhaitons qu'il y ait également baisse des prix d'une course de transport en commun.
Le président du pétrolier de l'Ituri salue cette mesure du gouvernement qui, selon lui, a écouté les cris de détresse des populations de l'Est, région confrontée aux conflits armés. Il appelle les opérateurs économiques de ces secteurs à se conformer à cette nouvelle structure du prix des carburants, ce qui n'est pas encore le cas dans toutes les stations-service de la ville. Certains pompistes que nous avons interrogés disent attendre la décision de leur propriétaire avant de se conformer à ces nouveaux tarifs. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Dans la capitale, le député national Tobie Kayumbi a présenté officiellement ce lundi 4 mai 2026 sa proposition de loi visant à modifier et compléter la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant code de la route. La séance s'est tenue dans l'auditorium du fleuve Congo Hôtel. L'élu de Mbujimaï a insisté sur l'urgence de cette réforme destinée à répondre aux problèmes d'embouteillage, au manque de discipline routière et plus largement aux défis de mobilité dans les agglomérations de la RDC. On écoute les explications de Tobie Kayumbi au micro de Vanessa Kongolo.
Nous sommes face à une urgence nationale. Chaque jour, sur nos routes, ce sont des vies qui sont exposées. Ce sont des familles qui sont endeuillées. Chaque jour, c'est l'ordre public qui recule face au désordre et à l'improvisation. Et pourtant, les cadres légaux, elles datent de 1978, avant l'explosion démographique de nos villes, avant l'apparition massive de mototaxis, avant les nouvelles formes de mobilité qui font aujourd'hui partie de notre quotidien. Le monde a changé. Nos villes ont changé. Notre loi, elle est restée figée sur le passé. Les résultats des embouteillages permanents, une circulation anarchique, des comportements à risque devenus banal, une insécurité routière qui n'est plus acceptable. Et c'est pour cela que nous avons pris ce courage et ces responsabilités d'amener cette nouvelle proposition de loi que nous vous avons présentée aujourd'hui.
L'examen approfondi de cette proposition de loi va débuter ce mardi 5 mai à la Grande Commission Aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, où plusieurs experts sont conviés pour apporter leur contribution. Nous sommes au deuxième jour des épreuves hors session de l'examen d'État au Maniema. Les élèves finalistes ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de la première journée. Ils souhaitent que ce climat positif se maintienne jusqu'à la fin de la session. Suivez certains d'entre eux au micro de Florence Kizalunga.
L'examen d'aujourd'hui était passé bien. C'était la dissertation. J'ai travaillé le sujet à expliquer, le travail à assurer l'indépendance. J'ai développé ce sujet et tout ça est passé bien.
La journée d'aujourd'hui est passée bien. Nous avions fait bien l'examen hors session de la dissertation et les examens se passent très très bien dans de bonnes conditions.
L'examen était passé bien. Moi j'ai choisi le sujet numéro 1, c'était le devoir de la jeunesse et de contester la corruption. C'était très bien, c'est bien passé. Et je pense que ce deuxième jour, l'examen va aller très bien.
Oui, d'après moi, l'examen était passé bon. Tout ce qu'on nous a enseigné, on a vu. Nous espérons que ça ira. Nous espérons que cette façon de poser, ça sera ainsi pour tous les jours.
Le comportement des surveillants était vraiment magnifique. Ils nous laissaient le temps de bien travailler. Ils ne nous dérangeaient pas trop. Et la place où on ne connaissait pas remplir, nous appelons les surveillants, ils nous montraient comment remplir. Et ils nous laissaient aussi travailler en paix et en sécurité. J'aimerais que ce climat continue jusqu'à la fin.
À Kananga, dans le Kasaï central, pendant ce temps, les enseignants de l'école primaire de la SNCC dénoncent un retard de paiement de leur salaire accumulé depuis 8 mois. Ils affirment que cette situation les empêche de subvenir aux besoins de leur famille et affecte à la fois leur motivation et la qualité de l'encadrement des élèves. André Katendengala Mouroumé, reportage.
Depuis septembre dernier, aucun salaire ne leur a été versé. Certains enseignants reconnaissent qu'ils ne parviennent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Il est vraiment difficile parce que nous sommes démoralisés. Nous ne sommes pas payés pendant les 8 mois. Les bailleurs, la condition alimentaire pose problème. On dit les conditions physiques entraînent le mental. Donc nous ne sommes pas posés pour bien encadrer les enfants comme nous avons toujours fait.
Le coordonnateur régional des écoles de la SNCC, Augustin Moulumba, appelle au calme. Il précise que la responsabilité de paiement relève de la direction générale basée à Lubumbashi.
Les enseignants étaient de passage ici. Nous leur avons expliqué que le salaire ne vient pas de nous. Le salaire vient de la haute hiérarchie. Il faut obtempérer. Dès que le salaire vient, ils seront rémunérés à bon moment.
Augustin Moulumba rassure que des démarches ont déjà été entreprises afin que ces enseignants puissent rentrer dans leurs droits. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, avant d'aller plus loin, le bourgmestre de la commune de Lukuga à Kalemie, Zedine Tamboa, est attendu dans les prochains jours à une plénière du Conseil des élus communaux. Il est visé par une motion de défiance initiée le 30 avril dernier par le conseiller communal Robert Moussambia. L'initiateur de cette motion dénonce une gestion jugée peu orthodoxe de la municipalité. Le point avec Paulin Mounanga.
Parmi les griefs reprochés au bourgmestre de la commune de la Lukuga figure l'insécurité persistante marquée par des cas de vols répétés et l'absence de mesures efficaces pour protéger la population. La motion évoque également une insalubrité préoccupante caractérisée par l'accumulation des déchets et l'absence d'une politique d'assainissement efficace, cela malgré la perception des taxes. Le conseiller communal Robert Moussambia, initiateur de la motion, dénonce en outre une gestion administrative et financière opaque, sans retombées visibles sur le développement local. Il fustige aussi le manque du dépôt du budget communal, considéré comme une violation grave des règles de la gouvernance. L'initiateur de la motion appelle à la convocation d'une plénière afin d'obtenir la décision de la déchéance du bourgmestre par les biais du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, conformément à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Contacté, le bourgmestre de la commune de la Lukuga promet de réagir au sujet de cette motion de défiance. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Deux jours après un entretien fleuve avec la presse sénégalaise au cours duquel le chef de l'État a rappelé son pouvoir de remercier son premier ministre s'il devait ne plus lui faire confiance et évoquer ses points de divergence avec les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye a limogé le porte-parole de la présidence Ousseynou Ly, militant de la première heure du PASTEF, pour le remplacer par Abdoulaye Tine, avocat et coordonnateur de la coalition Diomaye président.
L'invité.
Notre invité est Dominique Nkodiambete, maire de la ville de Matadi. Il s'exprime sur la problématique des embouteillages qui paralysent cette cité portuaire. Quelles en sont les causes? Quelles solutions l'autorité urbaine propose-t-elle? Dominique Nkodiambete en parle au micro d'Élise Kavira.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame la journaliste.
Nous allons partir d'un cas concret. Il y a quelques jours, j'effectuais un voyage en provenance de Kinshasa pour venir ici à Matadi. Mais monsieur le maire, j'ai failli passer la nuit en dehors de la maison alors que je n'étais plus loin de l'entrée même de la ville de Matadi. Parce que justement, il n'y avait plus moyen d'avancer à cause des embouteillages créés dans la ville par des gros camions. Nous avons l'impression qu'il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire?
Merci beaucoup, madame. Je crois que vous avez quand même passé la nuit chez vous à la maison. Peut-être que vous êtes arrivé les jours où il y avait une sortie exagérée des véhicules dans les ports. C'est pourquoi vous avez constaté des embouteillages. Actuellement, avec l'accroissement de l'activité économique, surtout que nous sommes une ville portuaire, il y a des véhicules, des gros tonnages, des véhicules hors gabarit qui entrent et qui sortent de la ville. C'est tout à fait normal qu'on puisse enregistrer des embouteillages dans la ville. Mais nous faisons de notre mieux pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Mais sachez que nous sommes une ville portuaire avec 8 ports aujourd'hui qui fonctionnent à plein régime dans la ville de Matadi. Vous avez les ports de Lédia, MGT, vous avez les ports de Lonatra, vous avez les ports Sokopé, Komodiawa avec les Grimes, vous avez des pétroliums, vous avez des ports secs comme Ticom et Akover, vous avez la route de Ango-Ango où beaucoup de véhicules poids lourds aussi sortent. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des véhicules qui doivent circuler dans les routes de Matadi qui sont restées les mêmes depuis 1960, on ne les a pas agrandies. Des véhicules poids lourds, même pour faire les croisements, déjà, dès qu'un tombe en panne, ça crée des problèmes. Donc, avant, il y avait les ports MGT qui fournissaient beaucoup de conteneurs Maersk. Mais aujourd'hui, là, le port de Lonatra a cédé un espace à la société MCTC qui rivalise MGT aujourd'hui. Donc, presque les mêmes volumes de conteneurs. 6 mois avant, il n'y avait que les ports MGT qui fournissaient beaucoup de conteneurs. Il faut également ajouter le fait que ces véhicules qui circulent là, les contrôles techniques se fait comment? Parce que chaque jour, il y a au moins un véhicule qui tombe en panne. Déjà avec la dimension de nos routes, lorsqu'il y a un véhicule poids lourd qui tombe en panne, sachez que ce sont des embouteillages. Mais quand cela ne tienne, nous faisons de notre mieux pour mettre les agents sur la voie principale, essayer de régler la circulation.
Ces embouteillages ne datent pas d'aujourd'hui. Je suppose que vous avez eu le temps de réfléchir aux potentielles solutions pour sortir de cette situation.
La ville de Matadi Si nous voulons qu'il n'y ait pas d'embouteillage, le chemin de fer doit fonctionner. Si le chemin de fer fonctionne, beaucoup de marchandises vont être évacuées par la voie ferrée et ça va résoudre les problèmes d'embouteillage. Vers les années 60, où il n'y avait qu'un seul port, toutes les marchandises pouvaient être évacuées par les chemins de fer. On ne sollicitait pas la route. Mais aujourd'hui, que nous avons 8 ou 9 ports, les chemins de fer n'existent pas. Tout doit passer par la route. Même au niveau de la nationale numéro 1, on commence à sentir qu'il y a surcharge des véhicules. Il y a un grand nombre de véhicules, moindre accident, moindre obstruction de la route. C'est, tout est bloqué. Donc, il y a un problème qu'il faut résoudre, pas seulement au niveau de Matadi, mais même sur la voie nationale numéro 1.
Aucune solution n'est envisageable par la voie routière.
Pour notre ville, nous avons toujours pensé à un contournement comme ça s'est fait ailleurs. Si vous êtes à Kinshasa, on construit une rocade qui va faire le contournement de la ville de Kinshasa. Comme ça, beaucoup de véhicules poids lourds ne feront plus leur entrée au centre-ville, mais vont contourner la ville pour aller jusqu'à destination. À Matadi, nous pouvons avoir aussi une petite rocade comme ça, à partir d'Imposo, on peut monter jusqu'à Belvedere, Cabanana, et on va entrer au port de Matadi par Pont Citra, Venise, et cette route-là peut arriver jusqu'à Ango-Ango. S'il y a une route comme ça, on va déjà éviter les centres-villes pour diminuer les embouteillages. Également, quand vous êtes à Bouima, on peut aller par Ndemba et aller jusqu'en Pozo vers Afritrans. Ça peut également diminuer les embouteillages en évitant les centres-villes. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est ça la situation. J'ai vu la fois passée à Lonatra, où il y a des locomotives qui arrivent. Si vraiment, on peut avoir beaucoup de locomotives comme ça, au niveau de Lonatra, que c'est des trains marchandises qui vont reprendre, on va trouver des solutions. Voilà.
Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur le maire.
Je vous en prie, madame.
C'était notre invité, le maire de la ville de Matadi au Congo central, Dominique Nkodia Mbete, qui s'entretenait avec Élise Kavira. Et c'est ce qui met fin à notre journal parlé de la mi-journée, coordonné par Élise Chikota Chivueta, supervisé par Alain Iron Monchinge et mis en onde par André Mongou. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.